Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de l'émission avec des images sur Radio Rectangle. Ça aurait dû être le deuxième épisode, mais c'est malheureusement le premier parce que j'ai manqué un rendez-vous au mois de septembre dernier. Mais c'est pas grave, là on y est avec un super épisode. Je reçois Corentin Lahaye qui travaille au Brasseur à Liège, dans un centre d'art contemporain, mais qui est aussi musicien et qui fait plein d'activités autour de la musique. Donc voilà, il va nous parler de tout ça. L'interview va commencer juste après. Je me représente, ça ne veut rien dire, mais je me présente à nouveau. Je suis Damien, j'ai, comme je disais, un petit label, j'ai un groupe, je suis designer, et donc forcément tout ce qui touche à l'image et à la musique, ça m'intéresse. Je reçois dans cette émission des personnes qui, elles aussi, sont en lien de près ou de loin avec la musique et avec l'image, et comment l'un influence l'autre et vice-versa. Toute la saison dernière, j'introduisais les podcasts avec un morceau qui me passait par la tête, qui était en lien avec l'épisode à venir ou que j'avais envie d'écouter ou de présenter aux invités. Là, cette fois-ci, je vais mettre en avant des artistes de mon petit label qui s'appelle Loïc Records. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai répété cette intro à peu près 250 fois, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, donc Loïc Records, ça veut dire Loïc, ça veut dire Liège en flamand. Cette semaine, je vais passer en introduction Lysistrata, le groupe. Le morceau s'appelle Down, c'est un petit morceau qui fait un peu plus d'une minute. Et vous pouvez noter aussi que Lysistrata sera en Belgique les 28, 29 et 30 octobre, donc très bientôt. Le 28 à Liège, le 29 à Bruxelles et le 30 à Arlon. Triple soirée, release avec notamment un groupe bruxellois qui s'appelle Reims-Doigts et un groupe luxembourgeois qui s'appelle No Metal in This Battle. Et donc c'est un peu les sorties d'octobre sur le label. C'est trois sorties plutôt mat-rock, post-rock. Et je profite aussi du moment de l'introduction pour remercier Henri du groupe liégeois Même les oiseaux puent. Je mettrai un lien pour écouter leur album. Qui m'a prêté le Zoom, donc l'engin qui me permet d'enregistrer le podcast là en ce moment même. Parce que je ne l'enregistre pas au studio de Radio Rectangle comme d'habitude, mais je l'enregistre à Liège. Je suis complètement mobile et je peux faire ce podcast où je veux. Donc ça, c'est grâce au Zoom, qui est le petit appareil que Henri m'a prêté. Ça, déjà, de un, c'est super. Et de deux, je vous invite à suivre la page du podcast qui est damien.cool/ avec des images, tout attaché. Et je vais commencer par me taire, je vais balancer le morceau, et juste après, l'interview avec Corentin va démarrer. Allez, on y va. Boum! Bonjour Corentin.
Salut Damien.
Bah, merci d'avoir accepté cette invitation un peu à l'arrache. Parce que
avec
ça,
plaisir.
on s'est vu il y a 2 jours et tu m'as dit ok, on le fait. Et donc voilà, on se croise régulièrement le matin parce qu'on a un lieu commun où on partage notre café.
Ouais.
Donc on peut le dire, c'est chez Grand Maison. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Et voilà, donc on se connaissait sans doute de vue depuis un petit moment.
Ouais.
Mais
Voilà, ça fait quelques mois qu'on a commencé un peu à discuter, voir un peu qui faisait quoi, tout ça, comment. Et donc, et justement, alors, pour présenter en vitesse brièvement ton travail à la fois dans la musique et à la fois dans l'image, tu fais quoi et tu, même si je le sais un peu, hein, mais tu fais quoi et enfin voilà, comment ça se passe et comment tu...
Bah voilà, moi pour le moment, je travaille dans un centre d'art au centre de Liège qui s'appelle Les Brasseurs. C'est un centre d'art contemporain, pas une galerie donc, centre d'art en tant qu'ASBL qui existe depuis plus de 25 ans, qui est maintenant situé rue du Pont, à 2 pas de la place du Marché. Et voilà, la majorité de nos activités, c'est des propositions, expositions centrées sur l'art contemporain, sous tous ses aspects, formes, médiums. Donc ça va des arts visuels à la sculpture, de la performance aux installations, des concerts, des lectures et tout ça. Et au Brasseur, moi je travaille plutôt au niveau de la production, des expositions, des accrochages, de la technique, la logistique donc, et depuis récemment de la communication, donc ce qui me un nouveau petit challenge pour moi puisque je n'étais absolument pas là-dedans au départ. Avant les Brasseurs, moi j'ai étudié le cinéma à l'université, donc dans les arts
Ici
du
à Liège,
spectacle
donc.
ici à Liège, et j'ai travaillé d'abord comme chercheur. Ce qui est marrant, c'est sur un sujet qui liait l'image et le son pendant un an. Et
Et qui était
puis,
quel projet?
en fait, j'étais attaché de recherche d'un professeur qui s'appelle Dick Tomasovic, et on travaillait sur un corpus de recherche autour justement des rapports étroits qui existent, qui se lient entre image et son dans le cinéma.
Ok.
Et voilà.
Il y a un lien pour voir le travail. Il y a un moyen de lire ou retrouver ce travail.
Malheureusement, non, pour différentes raisons, qui étaient que je suis tombé malade pendant une assez longue période et que, aussi pour des raisons de financement et de non-possibilité de développer ce projet, finalement rien n'en est sorti. Je pense au grand regret de mon professeur, Dick Tomasovic, avec qui je travaillais, et aussi au mien. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'en a jamais véritablement parlé. S'il écoute le podcast, je pense qu'on va peut-être avoir l'occasion d'en discuter.
Ben voilà, c'est une
Mais voilà,
invitation.
ouais. Ouais, tout à fait. Et après ça, j'ai travaillé comme assistant réalisateur sur des films,
D'accord.
que ce soit en documentaire ou en fiction, là, j'étais plus au niveau du deuxième assistant ou à gérer la figuration. Donc, c'est soit de gérer les comédiens, soit de la figuration. Voilà, j'ai fait un peu de montage aussi. Bah, bref, ça c'était déjà il y a un petit temps. Et à côté de ça, ben, j'ai une activité liée au son et à la musique qui date depuis longtemps, mais qui est fort en dilettante, pour diverses raisons, pour des raisons de temps, pour des fois des raisons de confiance, et aussi et surtout pour des raisons de collaboration, puisque j'adore travailler en collaboration, en fait. Des collaborations spontanées qui naissent dans le cadre de différents projets, que ce soit un projet post-punk, enfin si on peut leur donner des cases, parce que j'aime pas trop donner des cases.
Et donc là, tu parles de...
Là, je parle d'un projet qui est déjà avorté,
Ah oui.
enfin, qui est déjà avorté parce qu'on n'a plus le temps, mais qu'on réactivera peut-être, avec deux potes. On a répété tout un été, mais ça, voilà, pour des raisons aussi de temps, etc., ça n'a malheureusement rien donné. Mais sinon, voilà, les derniers projets en date sur lesquels j'ai participé, c'est notamment avec Zeuker Zeuker.
Je vous ai vu au micro d'ailleurs cette année, au
Ouais.
festival
Ouais.
à Liège.
Avec Jonathan, donc projet initié par Jonathan de Winter, qui est plasticien lui aussi, qui travaille la sculpture et l'art sonore, donc il lui aussi lit très implicitement, très fortement les deux.
D'ailleurs, quelque chose me dit qu'il sera probablement un invité futur. On vient d'en discuter parce que vous êtes coloc.
Ouais, exact,
Donc
exact.
voilà, on vient d'en parler. Le rendez-vous est presque pris.
Ça va, on va lui rappeler déjà en bas juste
Exact.
après. Puis au-delà, bah, du projet avec Jonathan, j'ai aussi un projet avec un autre pote qui s'appelle Eric Dopagne et son fils. Eric Dopagne qui faisait partie d'un duo de
performeur, je ne sais pas s'il aimerait ça, qui s'appelle l'Armée du Chahut,
ouais.
ici à Liège. Et aussi, un de mes derniers projets, c'était un concert à Paris avec Pierre-Yves Billet,
ouais.
Du label Youngers Records et d'autres, qui s'est super bien passé. On en parlait hier, il faut qu'on le réactive. Et aussi, enfin, on a travaillé avec Brice Drissen avec la Superette. On a fait le son d'une de leurs expos à Bruxelles il y a quelques mois. Voilà, donc voilà, c'est tout des projets récents auxquels je prends part et qui me font énormément plaisir parce que c'est. Enfin, moi, je même si j'ai envie une fois de sortir quelque chose en solo, je trouve beaucoup plus de force, d'énergie, de créativité à bosser avec
des autres.
Avec des autres.
La collaboration, c'est clair. Ouais. Ça ouvre un champ. Mais tu penses clairement à des choses différentes quand tu confrontes ton idée à celle de quelqu'un d'autre.
Donc, oui, tout à fait.
C'est, voilà, moi aussi, j'ai toujours. Chaque fois que j'ai commencé à développer un nouveau projet, c'était toujours parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une sorte de complémentarité à amener au truc. Et donc là, ici, on est dans ta pièce, dans ton studio, parce qu'on enregistre le podcast chez toi, donc dans ton studio, et je vois qu'on est entouré de machines, de claviers, de guitares. Toi, principalement, tu fais de tout, en fait. Enfin, principalement, tu fais de tout, ça ne veut rien dire. Donc toi, tu fais de tout comme instrument, finalement.
Mais ouais, parce que des fois, je me dis que je ne suis pas vraiment musicien, parce que je...
Comme nous tous.
Voilà. Parce que je travaille le son comme matière, c'est ça qui me plaît, et c'est ça que je recherche dans les différents projets. Oui, il y a effectivement des basses qui passent dans différents pédales d'effet pour lesquelles je vais chercher quelque chose de très... très lourd, de presque... Ouais, Jonathan dirait presque sculptural, du son vraiment comme matière. Et boîte à rythme et petits claviers pour bidouiller, effectivement, chercher divers sons. Mais ouais, c'est plus vraiment à chaque fois pour travailler la matière brute. Pour mon ex-collègue Yannick Franck me dirait aussi que c'est pour sculpter le son.
C'est ça.
Il aimait bien dire ça, je pense, Yannick. Ouais. J'espère qu'il ne me contredira pas non plus, mais
ouais.
Il aimait bien dire ça de... Ouais, pour sculpter le son.
D'accord.
Et l'utilisation de ces machines dépend de chaque projet. Voilà.
C'est ça. Mais parmi tous les projets, on est quand même dans une sorte de mouvance commune. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, tu peux parfois partir dans un truc post-punk et puis t'as vraiment pas de. Il y a quand même un truc commun dans le son, c'est le bidouillage, la sculpture.
Ouais, le bidouillage, la sculpture, effectivement, toujours le son comme matière. Mais oui, c'est tous des projets qui sont plus ou moins intimement liés, si on doit effectivement catégoriser, à des musiques électroniques un peu plus expérimentales, à de la recherche sonore, à de la noise, à un peu des drones, et aussi à musique industrielle, post-punk. Oui, c'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement, même si j'adorerais arriver à... Il faudrait que j'essaye peut-être à faire des trucs beaucoup plus pop ou beaucoup plus carrés, je sais pas. Voilà, post-punk plus instrumentaux. J'ai fait de la batterie quand j'étais jeune et c'est quelque chose que j'ai lâché et j'aimerais bien revenir à ça. Mais
ça me fait penser à Monolithe Noir, que tu connais, qui lui a fait le contraire. Lui, il vient de la pop. Parce qu'il avait un groupe pop en France et puis et maintenant il fait cette espèce de drone électronique avec ses synthés modulaires et il est aussi batteur et il fait de la batterie dans d'autres projets, donc c'est une espèce de c'est un peu ton, pas ton némésis mais ton
comment est-ce que ça encore,
c'est quoi le mot,
je ne sais plus,
pas homonyme mais c'est ton homothétique, en fait.
Voilà, c'est ça, disons.
Et donc, attends, on parlait de style, on parlait de... Est-ce que ces projets-là dont tu parles, soit passé, soit futur, il y a quand même moyen de les retrouver quelque part? Il y a des traces ou il y a des choses comme ça
Ce qui est très particulier, c'est que non. Pourquoi parce qu'ils étaient soit liés à des événements spécifiques, que ce soit pour le concert qu'on avait fait avec Pierre-Yves
à Paris,
ou le vernissage à la Supérette à Bruxelles, donc ce que j'avais fait avec Brice. C'était, on considérait ça, à chaque fois ça un peu sur le côté performatif, sur le côté, c'est pas accompagnement d'expo, mais complémentarité par rapport à une expo. C'était quand même des concerts, une soirée de concert à Paris, mais c'était dans le cadre d'une galerie avec des artistes, et donc que ce n'est pas vraiment par fainéantisme puis par non-envie, puisque tant avec Pierre-Yves qu'avec Brice on a envie que ce qu'on a joué sorte, mm-hmm. que ce soit pour le faire découvrir à un autre public et aussi pour nous. C'était toujours dans des contextes particuliers qui faisaient qu'on ne réfléchissait pas non plus à cette notion d'enregistrement, de garder ça. C'était voilà, quelque chose de très, très spontané. Avec Brice, on est allé un peu en résidence avec eux, quelques 2-3 jours. Et avec Pierre-Yves, on s'est vu 3-4 fois ici. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a amené une idée, j'ai amené une idée. On s'est dit, on n'a pas trop répété. On a fait ça à Paris à l'arrache. Et ce qui est fou, voilà, petite anecdote sans prise de tête, c'est que quelqu'un du Centre Pompidou est venu nous trouver après le concert en disant « Venez jouer jeudi, on a une nuit du son au Centre Pompidou, ça serait vraiment super que vous soyez là. Est-ce que vous avez de la musique pour qu'on puisse écouter, faire écouter au... ?» Avec Pierre-Yves, on s'est regardé, on s'est dit bah, « Non, on n'a rien, on doit rentrer à Liège, on a notre boulot, on ne saurait pas. » Et même si ça aurait été une super opportunité, ouais, effectivement, ouais. On s'est dit bah, « Non, voilà, c'est pas grave, c'est peut-être une autre fois, mais... »
Vous n'avez pas eu envie de le flouer en lui faisant écouter n'importe quoi en lui faisant...
On aurait pu, c'est vrai qu'avec Pierre-Yves, on aurait pu faire ce genre de
choses. Ah oui, vous êtes une bande de malhonnêtes.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Cruellement.
Mais, bah super, et il y aura... Tu me fileras quand même quelques liens, même s'il y a moyen d'avoir... Tu vois, si quelqu'un a envie d'aller...
Ouais, je ferai ça. Bah, je ferai ça déjà.
Je mettrai des liens dans le... Bah, ouais. Parce que forcément, ça rend curieux la manière dont on parle.
Ouais.
Moi en tout cas j'ai envie d'aller écouter certains trucs que vous avez fait et tout, donc si t'as des traces à gauche et à droite, des trucs
okay. qui traînent,
je mettrai ça.
Mais déjà j'ai coupé en discussion avec Jonathan, donc juste avant j'ai découpé un tout petit morceau de traces de répétition juste avant le micro-festival justement de Zucker. Et voilà, ça je peux déjà te donner. Et sinon ce que je peux faire, c'est pas peut-être pas te donner mais te donner peut-être des projets de Pierre-Yves ou les projets qu'on fait avec Pierre-Yves, puisqu'on ne fait pas seulement de la musique, mais avec Brice Drissen, donc avec qui on a performé au vernissage de la Supérette à Bruxelles, et Amaury Wilquin. On a un collectif qui s'appelle Amer, et on fait la programmation de concerts à Liège autour de musique... expérimental n'est pas le bon mot, mais autour de musique un peu... Ouais, ça va de la guitare, finger-picking préparé, à des concerts de techno, à des soirées plus noise. Hier, on a programmé un duo modulaire saxophone un peu free dans un appartement au fin fond de Saint-Léonard. Et après, en passant des disques tous les trois, enfin, parce que ça nous faisait plaisir. Donc, oui, ça, je peux aussi donner les liens à tout ça. C'est le moyen aussi de nous rencontrer dans le cadre d'autres événements quoi, qui ne sont pas des trucs
super. Parce que j'allais te poser la question justement, j'allais te demander que tu me parles de Amer et de ce que vous y faites et comment ça marche. Ça existe depuis combien de temps Amer?
Amer, depuis 2015 je crois. Ouais, 2015, 2014. Pierre-Yves, Amaury et Brice avaient commencé en 2014, mais j'ai rejoint le collectif dans le cadre d'un événement qu'ils organisaient chez nous au Brassard en 2015. Ça fait depuis 2015 qu'on a organisé d'abord des concerts au Brassard et puis dans divers lieux, ateliers de la Supérette, dans des appartements. Voilà, on cherche à chaque fois de lier l'événement qu'on organise à un lieu un peu atypique, entre guillemets.
C'est ça. Et donc là, vous avez fait quoi? Une vingtaine d'événements en 2 ans, 3 ans?
Petite dizaine, je dirais.
Ouais.
Petite dizaine.
Ok.
Ouais.
Bah, super. Bah, là, justement, comme tu as introduit tout ça, tout le côté musical, on va... Je vais passer un morceau à toi. Lequel tu as choisi un morceau
et... On pourrait passer... J'en ai choisi deux. T'as envie de plus d'un truc hip-hop ou d'un truc plus post-punk, techno, indus
Eh ben,
d'abord.
Le truc plutôt hip-hop.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Bah, j'ai choisi un. En fait, on l'a passé hier avec Pierre-Yves en DJ set après notre concert. C'est un projet d'un jeune. Enfin, maintenant il n'est plus jeune en fait. C'était un gars d'un jeune gars de Memphis qui a sorti une mixtape en 1995 et qui est ressorti il y a 3 ans sur un label qui s'appelle LA Club Resource, donc un label de Los Angeles. Et c'est Lil Noid et ça s'appelle Criminalistic Knowledge.
Ok, bah voilà, bah là ça commence, ça passe et hop, on y va. C'était comment que ça s'appelait?
que ça s'appelait Criminalistic Knowledge de Linoid.
Ah, voilà. Donc, attends, je vais le lire parce que c'était compliqué. C'était Criminalistic Knowledge
ah, ouais, voilà.
de Linoid.
Ça, c'est mieux.
Ouais, voilà.
Avec un plus bel accent.
C'est pour ça que je n'avais pas compris. En fait. voilà, bah super. Je ne l'ai pas entendu parce que, tu sais, on le monte ici. Donc, le morceau, j'imagine qu'il était super, sinon tu ne l'aurais pas choisi. Donc, je ne l'ai pas encore entendu. Et donc, voilà. Et maintenant, on va passer à l'aspect plutôt image de l'émission. Et là, je t'ai demandé de préparer une image, enfin, voire deux même, pour... voilà. Et je vais voir un peu... Tu me la montres, puis je vais essayer de décrire ce que je vois.
On va prendre la première...
Ah, alors, c'est une image qui est probablement tirée d'un clip ou d'un film. Là, je ne la reconnais pas, donc peut-être honte sur moi, mais je ne reconnais pas le film. Parce que ça a l'air d'être tiré quand même d'une image cinématographique ou de la télévision.
Mmh.
On voit une basket blanche. L'image est coupée en deux presque symétriquement, enfin pas symétriquement, mais en plein milieu par probablement un pied de table ou quelque chose comme ça. Basket blanche, chaussette blanche... Et derrière, un ghetto blaster avec un doigt qui appuie probablement sur la touche play. Un vieux ghetto blaster. Donc moi, je dirais que c'est une image, on va dire, années 80.
Ouais, c'est juste.
Et ça sent le hip-hop quand même. Ça sent un peu le hip-hop, mais peut-être pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre On voit un genou qui... Ah non, j'allais dire le genou est peut-être un peu plié, le genou à gauche. Donc je me disais peut-être qu'il y a déjà un mouvement de danse qui s'opère dans le truc.
Ouais.
Mais j'en mettrai pas ma main au feu. Donc moi, c'est ce que je vois en tout cas. Mm-hmm. Donc l'image, elle est. Si tu vas dans la description, je tutoie mes auditeurs.
Ouais, ouais.
Si tu ou vous, en fonction de. Si vous voulez que je vous voie. Mais il y a un lien dans la description de cet épisode du podcast avec l'image en question. Comme ça, vous pouvez la voir et voir ce que je raconte là depuis 2 minutes. Et maintenant, c'est à toi de me dire pourquoi tu as choisi cette image.
J'ai choisi cette image. T'as raison. C'est effectivement une image tirée d'un film. Et en fait, c'est un photogramme de la chanson ou de même, c'est encore l'introduction d'un concert filmé des Talking Heads qui s'appelle Stop Making Sense.
Oui, ok, voilà.
Réalisé par Jonathan Demme pour l'anecdote, c'est celui qui a réalisé Le Silence des Agneaux. Ouais, c'est ça, Le Silence des Agneaux.
Ouais.
Et pourquoi j'ai choisi cette image? En fait, depuis tout petit, je suis fasciné par les concerts filmés.
Okay.
Je regardais que ça. Mes parents ont aussi, pour l'anecdote, avaient acheté un magnéto pour la retransmission du Live Aid, donc le fameux concert, énorme concert de 24 heures pour essayer de récolter des fonds pour la famine en Afrique et tout ça. Et donc, ils n'arrêtaient pas d'enregistrer des trucs que ce soit...
Jimmy Cliff, hein, c'est ça? C'était pas Jimmy Cliff?
C'était plein d'artistes.
Qui étaient à l'initiative du
truc. Ah non, c'était... le mec des Boomtown Rats.
Non, pas Jimmy Cliff, qu'est-ce que je raconte?
Comment est-ce qu'il s'appelle?
Richard. Johnny.
Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus non plus.
C'est pas grave, on le mettra dans
on
le.
On le mettra, ouais.
Parce que c'est très important.
Mm-hmm. Oui.
Mais donc, ouais, voilà. Et vous aviez acheté un magnéto spécialement.
Ma mère avait acheté un magnéto pour ça, ou mes parents un magnéto pour ça, et ils n'arrêtaient pas d'enregistrer des concerts. Là où ma sœur. Elle était fort fort petite, mais moi je ne regardais jamais la télé, je regardais juste des concerts.
Okay.
Et je me suis souvenu de ça en réfléchissant à ce que je pouvais montrer comme image. Et j'ai choisi cette image parce que c'est l'intro d'une version totalement, enfin presque épurée de Psycho Killer.
Ouais, ouais, et je me souviens très bien en fait maintenant de cette image.
Où effectivement il monte sur scène, il allume un ghetto blaster, il y a juste une petite ligne de 808, donc une boîte, ouais. Une boîte à rythme de l'époque, et il a la guitare acoustique et il chante cette version que j'adore devant une salle de concert, devant une scène totalement vide dans laquelle on voit les cintres, on voit les projecteurs et tout ça. Et je vous conseille vivement, si vous êtes fan des Talking Heads ou pas, de regarder ce live parce qu'il est représentatif je sais pas, de l'énergie du groupe, de certaines années 80, parce qu'il y a certains plans sur le public qui sont voilà, public totalement multiculturel, en train de danser, enfin voilà, bref, il y a plein de choses que j'aime bien. Et c'est aussi parce que c'est un peu le pendant opposé de ce que j'écoute d'habitude, qui est peut-être beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Talking Heads, je crois que c'est un de mes groupes préférés. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'avais choisi ça, pour son lien entre image et son, bah, des niveaux différents, puisque c'est un concert filmé, parce que ça me rappelle des souvenirs qui, moi, me...
Bah, qui t'ont construit,
m'ont construit, entre guillemets, et aussi parce que c'est... au-delà de Coco Techno, comme me disent mes potes, bah, y a des trucs... voilà.
C'est ton nom de scène, c'est ton projet solo, Coco Techno.
Ouais, ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Bah, ouais, bah, voilà, c'est un peu, en gros, c'est pour ça que j'ai choisi cette image.
Bah super, bah, en fait, voilà, on va mettre le lien dans la description, parce que j'ai très envie de le revoir, parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu cette intro qui est super... emblématique, donc
ouais,
on peut dire ça, mais j'ai pas reconnu l'image, mais maintenant que tu me l'as décrit, je me souviens très bien avoir pris une claque quand je l'ai vu la première fois, où il débarque avec son ghetto blaster. Bah super, bah, et merci pour cette image.
Bah Noël, ouais, plaisir.
Et bah, là on va passer alors du coup au deuxième morceau que t'as choisi.
Ouais.
Et qui est du coup l'autre, plutôt post-punk.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu le penchant, le pendant un petit peu plus sombre, un petit peu plus expérimental de ces années-là, parce que c'est un groupe, un projet qui s'appelle Crash Course in Science, pour bien le prononcer. Et la chanson que j'ai choisie s'appelle Flying Turns, et je l'aime, elle date de 81. Le groupe date des années de fin 70, mais... et ça, voilà, c'est un peu post-punk, pré-industriel. Enfin, quand on regarde sur Discogs, il a mis MBN, enfin, plein de petits... C'est comme si ça reprenait toutes les catégories, alors que pas du tout. Mais c'est très étonnant. On entend des guitares distorsionnées, une sorte de beat qui est quand même super pop, enfin, qui est un peu pop et dansant. Et voilà, je vous laisse découvrir le reste, quoi.
Maybe you're all there.
Crash Course in Science. Donc ça, c'est le nom du groupe. Et le morceau s'appelle Flying Turns.
Ouais.
Et donc, je vois que ça date, le groupe date de 79. Et donc, tu disais, il est qualifié de post-punk.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très vite après. Enfin, moi, j'ai en mémoire et en tête, et j'adore retenir cette histoire-là du punk, mais que le punk est né et mort la même année, en 77.
Ah ouais.
Ouais. Moi, je sais plus où j'ai entendu ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un album, le premier album de H. Tu te souviens de ce vieux groupe un peu teenage?
Non, pas du tout.
Genre, ils avaient...
Ah, si, oui, si, ça remonte.
16-17 ans, je crois, quand ils ont sorti leur premier album, c'était des gamins.
Ouais, je me souviens.
Et leur album s'appelle 1977, parce que, pour eux, c'est la naissance et la mort du punk.
Ah ouais, c'est ça.
Et donc, voilà. Donc, moi, j'adore retenir cette histoire que le punk, en fait, est mort au moment où il a été créé, par, notamment, toute la scène, enfin Sex Pistols, Sex Pistols, et au moment où ce groupe entre guillemets monté de toutes pièces est né, ça a en même temps signé sa mort, quoi.
Ouais.
Et donc j'aime bien l'histoire du. Donc voilà, et donc ça c'est du post-punk, donc c'est le groupe est né 2 ans après la mort du punk.
Voilà. Mais je sais pas si ce morceau-là pourrait être qualifié de post-punk, mais moi je ne retrouve plus. J'ai essayé de retrouver l'article pour cette émission justement. Mais là où j'ai un peu du mal à catégoriser les choses, j'ai lu quelque part que une certaine mouvance de la scène techno ou électronique expérimentale, notamment autour de Berlin, serait fortement influencée par cette esthétique ou tous ces groupes du post-punk au niveau des rythmiques, au niveau des sons plus industriels, plus noirs, plus... et je pense que si... ce morceau-là ne peut pas être considéré comme post-punk comme tel, il y a des petites influences comme ça. Moi, je crois que je t'avoue, c'est peut-être pas bien préparé, mais j'ai un peu Wikipédié la page de Crash Course in Science pour le checker, c'est ce qu'il le mettait en premier. Donc,
voilà. Tu sais, moi, j'ai Wikipédié ton nom pour pouvoir te poser toutes ces questions. Donc voilà, on est à égalité. Super pour le morceau et pour le petit passage post-punk. Mm-hmm. Et on va passer à l'image numéro 2.
Ouais. Il est plein là.
Alors, c'est une photo en noir et blanc, c'est un portrait d'une jeune fille que je ne reconnais pas non plus. Donc, c'est la première fois que je vois cette image. Elle a les yeux. On dirait qu'elle est quand même un peu fatiguée. Elle a des cernes, ou elle a les yeux en tout cas qui sont assez assombris, je pense, par la fatigue. Et elle essaye de les maintenir ouverts avec ses doigts. Voilà, j'ai l'impression que les doigts sont un peu salis. Donc est-ce que cette jeune fille vient de... d'une fête qui a duré un peu trop longtemps. Et donc elle est extrêmement fatiguée. Elle a les cheveux attachés, la bouche entrouverte, elle a une chemise noire et un médaillon, un peu le médaillon à l'ancienne, une broche sur laquelle on dirait qu'il y a un L. Donc peut-être elle s'appelle Lucie ou Louise, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est une assez belle image en tout cas. Voilà, je te laisse la parole maintenant.
C'est une photographie d'une artiste française, j'espère ne pas me tromper, qui s'appelle Agnès Geoffrey, en fait. Donc, photographe contemporaine, et je ne sais plus, je n'ai pas regardé si elle avait une légende, ça, peut-être qu'on pourrait le mettre aussi...
on mettra tout ça dans la description.
Mais je pense que c'est tiré d'une série qui s'appelle Métamorphose. Je suis toujours interpellé par certains portraits de visages féminins, en fait. Et quand tu m'as demandé de réfléchir à des images, moi, j'ai tout de suite pensé au travail d'Agnès Geoffrey, justement, parce qu'il m'avait beaucoup touché. Elle était venue en parler dans le cadre d'un workshop qu'on organisait au Brasseur, donc un workshop qui était dirigé à l'intention d'étudiants d'école d'art, et on invitait des intervenants pour venir parler de leur pratique. Elle était venue parler de sa pratique de photographe qui, moi, m'avait fort, fort touché. Le travail autour de, de la mythologie, des faits divers, autour des manipulations d'images, de la réappropriation, aussi autour de l'emprise, de l'autorité, de la domination. Et toutes ces images sont liées. Il y a toujours énormément de tensions diverses dans ces images. Je vous invite, je veux aussi mettre... Enfin, je suppose qu'on pourra mettre le lien de son,
oui,
de son
site. Oui, je le mettrai, oui, bien sûr.
Et en regardant ces images tout à l'heure, bah, je suis rendu compte que c'est celle qui m'interloquait, qui me plaisait le plus, que ce soit pour son aspect plastique, pour son aspect... la curiosité autour de cette image, aussi pour ce geste. Bah, effectivement, elle a l'air fatiguée, elle a l'air de ne plus vouloir regarder ou de ne pas vouloir regarder, et en même temps de s'aider physiquement, enfin d'aider ses paupières pour garder les yeux ouverts. Et, je sais pas, ça m'a fort fort interloqué. C'est peut-être aussi, enfin, je veux pas faire de métaphore ni enfin essayer de trouver une signification qui n'existe pas, parce que je pense que chacun peut faire ça, se plonger justement dans cette image pour y trouver. Pour y trouver quelque chose, mais moi ça me. C'est peut-être ça, des fois, ma position par rapport aux images, justement. J'y réfléchissais tantôt.
Ah ouais.
Le fait d'être tout le temps.
Assailli
par des images,
ah ouais.
Et des fois me forcer à avoir envie de regarder, même si je suis fatigué.
C'est ça, ouais.
Que ce soit via les réseaux sociaux, des fois, on bloque en regardant Instagram. Et...
Tumblr, tu ouvres un Tumblr, voilà. Et tu vois des milliers d'images.
Ouais.
C'est vrai, ouais.
Je pense pas du tout qu'il y ait que ça traite de ça, que son travail traite de ça, ne traite pas du tout de ça, mais voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle m'interloquait, cette image, tout à l'heure.
C'est ça. C'est, bah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que t'as, c'est métaphoriquement, ce truc de... d'être constamment enseveli sous les images. Mm-hmm.
C'est aussi, je pense que c'est aussi parce que je lis ça un peu, je fais aussi un peu un lien avec la discussion qu'on a ici, quand tu m'as demandé d'effectivement réfléchir à des images, ben, moi, enfin, je suppose que c'est pareil, je me souviens d'autres podcasts que tu as fait, je pense que beaucoup disent que c'est extrêmement compliqué, que c'est très difficile de sélectionner quelque chose.
Oui, parce que ouais, c'est ça, des images, t'envoies des milliers tous les jours, et puis laquelle tu vas choisir, en plus, c'est aussi lié à un moment, tu as pensé à celle-là maintenant parce que, je ne sais pas pourquoi, mais si je t'avais posé la question dans une semaine, ça aurait été une autre.
Totalement différent.
Ouais. On peut le refaire, je te poserai la question la prochaine fois qu'on se voit, pour le café.
Pour le café du matin, parfait.
Ouais, tu me montreras une autre image.
Ouais.
Et bah c'est une super idée, ça, de s'envoyer des images. Mmh. Oh, je vais garder ça pour plus tard.
Pour plus tard, ouais.
Et bah super, merci. Et alors, du coup, j'enchaîne. Parce que là, je vais... tu vois, on arrive doucement à la fin du truc et tout. Donc, tu vois, tu m'as parlé un peu d'images, tu m'as parlé un peu de musique.
Ouais.
Moi, j'avais une question par rapport... Je sais que tu fais de l'escalade.
Mmh.
Et... c'est peut-être débile, mais je me demande, est-ce que justement, par rapport au fait, tu vois, on vient de parler maintenant qu'on est constamment assailli d'images, que toi, dans ton métier, tu l'es aussi, tu vois tout le temps des nouvelles choses, t'es super curieux par rapport à ça. Est-ce que l'escalade, c'est une nécessité par rapport à ça? C'est-à-dire, moi, j'ai l'image de, quand tu fais de l'escalade, une espèce de retraite où t'es pas seul parce que t'es quand même assuré par quelqu'un, mais où finalement. C'est toi face à un mur, quoi.
Ouais, mais...
Bah... C'est une sorte de méditation, finalement.
Ouais. Où... C'est marrant, je sais pas beaucoup... Enfin, c'est curieux que tu abordes ça comme ça, puisque... par rapport à tous mes différents boulots, toutes les sollicitations, et peut-être aussi certaines questions que je me posais à une certaine période, mais j'avais besoin soit de méditer, ce que j'ai fait, un petit peu... Et un jour, Jonathan, mon coloc, Zucker, tout ça, m'a dit, viens, on va grimper un jour, ça va te faire du bien. Et il m'a emmené, et c'est effectivement ça. C'est ma manière d'une certaine manière de me reculer de tout ça, de...
Comme, finalement, comme tu dis, de le mettre à dos.
Ouais.
Tu lui tournes le dos.
Ouais, exact.
Tu tournes le dos au monde, et c'est face à un mur, face à toi-même, finalement.
Ouais, exact. Et vraiment, face à toi-même, parce que tu... si tu penses à autre chose qu'à où tu vas mettre qu'à ton prochain move, comme on dit, si tu penses à autre chose que ta voix, ben tu risques de tomber. Et plus la difficulté devient ardue, compliquée, plus c'est difficile de penser à autre chose qu'à ta prochaine prise. Et ouais, c'est vrai que l'escalade, j'avais pas beaucoup fait à l'extérieur, mais c'est aussi très très grisant sur rocher. Ouais. Mais en selle, c'est vraiment le moyen de me couper de tout, c'est en ça. Fait.
Ouais.
Et aussi, il y a dans le travail de Daniel Geoffrey, dont on parlait juste avant, j'ai failli choisir cette photo-là, je me suis dit non, c'est peut-être un peu trop évident, mais d'un grimpeur qui grimpe sur une falaise et pour laquelle qui grimpe sans corde.
Ah ouais.
On voit que c'est une vieille image et que le grimpeur est sans corde. Vu le travail de Daniel Geoffrey, peut-être qu'elle les a retirés. Enfin, vous verrez ça avec les autres images où il y a effectivement des cordes, des soutiens qui disparaissent ou des pendus pour lesquels le nœud coulant n'existe pas, okay. Ou des gens qui sont suspendus. Ben, je pense qu'il y a une série qui s'appelle Les Suspendus, justement. Enfin, il y a tout ce travail autour de ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien son boulot.
Ouais,
oui. Voilà, je n'ai pas montré celle-là parce que je m'étais dit que c'était peut-être trop évident, mais...
Tu vois, on y revient quand même.
On y revient quand même, ouais, ouais. Effectivement.
Et là, ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade ?
Depuis presque 2 ans, d'accord. Je crois. Presque 2 ans.
Bah, du coup, je fais la question dans l'autre sens. Est-ce mm-hmm. que, selon toi, depuis ces 2 années que tu as passé à faire de l'escalade, est-ce que tu penses que ça a eu une influence ? Et si oui, bah, comment ? Dans ton travail, ta manière d'aborder soit ton travail... musical ou soit ton travail au sein des brasseurs, est-ce que tu penses que l'effet finalement de calme et de presque méditatif,
ouais.
de l'escalade t'a modifié, métamorphosé, puisqu'on parle de métamorphose,
ouais.
t'as métamorphosé par rapport à ton travail là-bas?
Ouais, je crois vraiment. Bah, déjà parce que aussi parce que je passais beaucoup de temps au boulot à un certain moment et qu'au moment où j'ai commencé à grimper, je partais pile à l'heure.
Okay.
Mais aussi parce que j'avais l'esprit beaucoup plus libre d'une certaine manière à un moment et que la légèreté et le lâcher prise entre guillemets que je trouvais là-bas, je pouvais le réinjecter d'une certaine manière. Enfin, les bouffées d'air que je trouvais pas là-bas, j'arrivais à les réinjecter d'une manière ou d'une autre dans les différents projets. Et aussi, bah oui, à l'escalade, tu l'as dit, on est tout seul, mais aussi on est deux. Il y a quelqu'un en bas qui doit t'assurer, qui est fondamental. Il faut avoir totale confiance avec le mec ou la fille en question qui est en bas et qui t'assure. Et moi, j'ai totalement confiance en ces divers partenaires de grimpe. Et je la trouve, cette confiance aussi, avec là où je ne l'avais peut-être pas avant. Que ce soit en moi-même, d'une certaine manière, mais aussi avec mes partenaires mes partners in crime au niveau de la musique, quoi.
Ouais, ouais.
Que ce soit le projet avec Zucker ou le projet avec Pierre-Yves ou le projet avec Eric, qui, voilà, avec certains, on grimpe un peu plus libre, donc voilà, sans corde, mm-hmm. À vue, comme on dit pour utiliser le terme du jargon, des fois c'est un peu plus construit, mais à chaque fois c'est... Voilà, c'est un bonheur de grimper ouais, tout ouais. ça et d'essayer de construire tout ça et de gravir de plus en plus les niveaux, quoi.
C'est ça.
Ouais. Ouais.
Et quand tu disais que... Bah, là, c'est parce que ça devient aussi un peu plus personnel, parce que mm-hmm. moi, je pratique aussi la méditation.
Ouais.
Et toi, quand tu as arrêté, tu m'as dit que tu en as fait un peu avant l'escalade,
mm-hmm.
parce que tu t'y retrouvais pas, parce que c'est... Enfin, si tu as arrêté la méditation, c'est...
Bah, j'allais tous les dimanches matins au Zazen, donc au dojo.
Tu allais dans ouais. un endroit pour le faire. Ah oui,
ouais.
c'est ça.
J'allais dans un endroit pour le faire. Et le Zazen, c'est une des... assez mal en parler parce que malheureusement je maîtrise assez mal le sujet, mais c'est une des voies du Bouddha, pas du bouddhisme mais du Bouddha, mm-hmm. et c'était à chaque fois des séances qui étaient très fermées, cadenassées, et ce qui est bien, ce qui est super positif, mais tout et qui me faisait beaucoup de bien à l'époque, mais je sais pas, à un moment, le transfert est venu naturellement. Je D'accord. médite encore de temps en temps, je vais plus au dojo, mais je médite encore de temps en temps tout seul, face au mur blanc. Mais face au mur blanc, sans image, sans rien, sans ouais. son. Mais effectivement, ouais, le transfert, ça fait naturellement vers l'escalade. Je pense que j'avais plus envie d'un truc
physique
aussi en même temps, parce que je faisais plus de sport à l'époque. J'en ai fait énormément ado. J'ai fait du basket pendant 13 ans. Donc,
Ah oui, toi aussi.
Ouais. Ouais. Toi, t'en as fait aussi ?
Oui, moi j'ai fait du basket pendant 8 ans, un truc comme ça. Ben, merci pour tout ça.
C'était, avec plaisir.
Voilà, non, c'était vraiment super. C'était une discussion super intéressante. Et ben là, on va clôturer doucement avec, par exemple, l'actualité en fait, de tes projets. Comme ça, si des gens veulent un peu voir soit où tu joues, ou soit les expos sur lesquels tu bosses en ce moment.
D'accord.
Il y a quoi qui se passe autour de ton univers Je déteste ce mot univers, je n'aurais pas pu le dire.
Au Brasseur, on vient de clôturer une expo avant-hier, samedi. Le 28 octobre, c'est le vernissage d'une prochaine expo, donc une exposition individuelle d'un artiste vidéaste, principalement français, qui s'appelle Augustin Gimel. Donc il va venir occuper l'espace des Brasseurs avec diverses projections, installations, dessins, accrochages. Pardon, il y a encore beaucoup de... un petit peu de secret, les artistes aiment bien garder un petit peu de secret avant de venir dans les lieux. Donc on a quelques idées, mais on ne sait pas trop, c'est la surprise, mais on se réjouit. Il y aura, dans la vitrine jeune artiste, puisqu'il y a une vitrine jeune artiste au sein des Brasseurs, si ça intéresse d'ailleurs les jeunes artistes, entre guillemets, qui écoutent l'émission, prenez contact avec nous, allez voir sur le site ou sur l'Instagram, vous verrez quelques... enfin déjà ce qu'on fait, savoir si votre boulot peut s'intégrer dans le cadre de l'espace. Donc voilà, 28 octobre. Le 11 novembre, avec Amerlab, donc avec mon collectif, on fait une collaboration avec les gars de Mea Kusma, qui est un collectif de Pen qui organise entre autres le festival Mea Kusma Festival qui a eu lieu début septembre. On fait une soirée commune autour d'Europalia à Donésie. Eux programment divers artistes comme Rabbi Behaini, qui va faire la première d'un projet qui, je pense, est présenté dans le cadre de cette soirée. Donc du 11 novembre, il le présente la semaine prochaine au Bergen, je crois, donc le club de Berlin. Et nous, on propose deux artistes, Steel Bonus, qui est un DJ d'Amsterdam, si je ne me trompe pas, qui a sorti une compilation que je pourrais aussi retrouver, qu'on peut aussi mettre en lien si jamais.
Liens.
Ah ben voilà, parfait. Ouais. Qui a sorti une chouette compilation que je vous invite à écouter et qui sera présent pour passer quelques disques et aussi un guitariste, chanteur, bidouilleur assez incroyable qui s'appelle Richard Youngs, qu'on est très heureux d'inviter et qu'on propose lors de cette soirée du 11 novembre à Eupen. Donc c'est marrant, j'aurais pu choisir Richard Youngs, mais comme on en parlait tantôt, il y a tellement de choses
que... tu sais ce qu'on va faire, on va clôturer l'émission après je passerai Richard Youngs pour dire au revoir et pour bercer les gens au cas où ils nous écoutent le soir ou si c'est le matin pour les réveiller le soir, parce que je suis sûr que ça marche bien avec le café.
Ouais, ça marche très bien avec le café.
Voilà, c'était une super émission, je l'ai déjà dit, mais merci de m'avoir reçu dans ma pièce, dans mon studio.
I had an idea with thoughts of collapsing stars that I wanted to see. Your thoughts of collapsing stars, so I cleared my sight. Stars, so that it could be the thought of collapsing stars. I rode to the other side, then I rode back again to the edge of the outer limit, and then along you came. It's a journey. States aligned, thoughts of collapsing stars, we're going back to creation. Thoughts of collapsing stars, we're seeing spiders.